France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le grand résistant, élève de Jean Cavaillès, philosophe des mathématiques, Jean Toussaint de Santy, est l'auteur, entre autres livres, des idéalités mathématiques, sa thèse, publiée aux éditions du Seuil. En 1969, il avait été reçu sur France Culture par François Le Lyonnais, producteur alors de La Science en Marche, lui-même mathématicien, auteur des Nombres remarquables et fondateur de l'Oulipo. Deux grands résistants, deux hommes qui comptent absolument pour que notre pensée soit la plus vive et la plus moderne possible.
La science en marche, une émission de François Le Lyonnais. Aujourd'hui, les mathématiques sont-elles un objet ? Avec Jean Toussaint de Santy.
La grande majorité d'entre vous, mes chers auditeurs, n'a jamais passé de thèse de doctorat, n'en a jamais vu passer et ignore même comment elle se déroule. J'ai pensé qu'il vaudrait la peine, je ne dirais pas de vous faire assister à une thèse de doctorat, mais de vous donner une idée de cette épreuve qui est sanctionnée par le plus haut grade universitaire, aussi bien dans le domaine des lettres que dans celui des sciences. J'ai choisi comme exemple une thèse qui a été soutenue il y a 6 mois, le 5 octobre 1968, en Sorbonne, par mon ami Jean Toussaint de Santy, maître de conférence à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. C'est une thèse qui a fait beaucoup de bruit en son temps. On en a parlé non seulement, bien sûr, dans les milieux savants et universitaires, mais aussi, et c'est pourquoi il valait la peine de lui ouvrir cette tribune, mais aussi dans des journaux quotidiens, dans des hebdomadaires de grand tirage qui sont lus par un public nombreux. Cette thèse est intitulée « Les idéalités mathématiques ». Elle vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est un gros volume de 319 pages, c'est dire qu'il est d'une lecture sérieuse, mais néanmoins passionnante. Ce titre, « Les idéalités mathématiques », ne vous sera peut-être pas immédiatement compréhensible. Il va falloir que nous nous en expliquions. Nous reviendrons sur ce titre. Il mérite l'explication. Mais auparavant, je voudrais te demander quel était ton jury de thèse, pour qu'on sache qu'est-ce qu'un jury de thèse, comment il est composé.
Le président était René Poirier, professeur à la Sorbonne, et il était accompagné de deux philosophes, Suzanne Bachelard et Martin, et de deux mathématiciens, Lichnerowitz et Schocke.
Alors il y avait, selon l'usage, un usage que nous ne discuterons pas ici, sera-t-il changé ou sera-t-il conservé, il y a une deuxième thèse qu'on appelle la thèse complémentaire, peut-être moins importante ou plus spéciale. Quel était en tout cas le sujet de cette deuxième thèse qui n'était pas les idéalités mathématiques dont nous allons parler?
Le sujet en était beaucoup plus technique et plus limité. Il s'agissait des problèmes de la mesure, mais je ne crois pas qu'il soit utile d'en parler ici.
Non, non. Surtout que le mot « mesure » n'est pas pris dans le sens de mesure d'un coupon d'étoffe ou même de mesure de la Terre, mais dans le sens mathématique du mot, qui est un sens encore plus technique. Combien de temps a duré la discussion ?
Environ 4 heures.
Et tu as reçu la mention très honorable, qui est, si je comprends bien, la mention la plus élevée dans ce domaine.
Disons que c'est la mention usuelle.
Oui, homme. L'habitude, en cette sorte d'épreuve, est de demander au candidat, avant de développer les résultats auxquels il est parvenu, d'exposer au jury comment sa thèse a pris naissance, quels ont été ses premiers pas. Je vais te poser la même question que t'ont posé les membres du jury de thèse.
Mais à la fin des années 1940, j'étais allé trouver mon maître Gaston Bachelard avec en tête un projet de thèse qui était proprement démentiel, parce que j'envisageais de raconter l'histoire de la théorie des fonctions de variables réelles depuis Archimède jusqu'à Lebesgue.
Ce n'est pas une petite chose, oui.
Oui, c'était un projet d'ignorant. Mais Bachelard ne s'est pas moqué de moi. Il m'a dit, eh bien, écoutez, vous n'avez qu'à commencer, vous verrez. Évidemment, je n'ai pas tardé à voir. C'est-à-dire que j'ai retranché. Et petit à petit, mon projet s'est transformé. Au lieu d'écrire un livre d'histoire, ce que j'avais en vue au point de départ, j'ai écrit un livre consacré au statut des objets mathématiques dans l'histoire. Et c'est l'objet du travail que j'ai fait pour cette thèse.
Nous pouvons entrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, dans ton apprentissage philosophique, a pu te conduire aux mathématiques ? Y avait-il dans la manière dont tu as appris la philosophie quelque chose qui ne te satisfaisait pas ? Tu aurais pu te contenter, comme on le fait d'habitude, et parfois d'ailleurs de manière fort intéressante, de te tailler un sujet, comme au fond d'ailleurs tu en avais un peu l'intention justement au début, de te tailler un sujet dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la philosophie d'un certain domaine ou d'une certaine notion.
Bien, la question que tu me poses est tout à fait fondamentale, parce qu'elle concerne la nature du rapport entre la philosophie et les sciences, d'une façon générale.
À coup sûr.
Il y a deux manières de considérer ce rapport. On peut, d'abord, être très présomptueux en tant que philosophe, et croire que l'on va donner des leçons aux hommes de science simplement parce qu'on disposerait d'une vérité supérieure. Bon, ce n'est pas le cas.
Non, nous le savons.
Nous le savons. Il vaut donc mieux que les philosophes essayent d'apprendre une science. Le choix de la science à apprendre est guidé par les intérêts philosophiques du philosophe qui désire apprendre. Les miens étaient les suivants. Je m'intéressais au problème du rapport entre la vérité et l'histoire. Comment se fait-il qu'il existe des vérités qui aient l'air d'être indépendantes du temps et qui cependant soient produites dans le temps, qui résistent ou qui survivent aux conditions historiques qui leur ont donné naissance, alors qu'elles ont été produites dans des conditions historiques, sociales, culturelles, bien déterminées. C'est ce problème qu'il s'agissait de comprendre. Eh bien, les mathématiques, pour poser un tel problème et pour l'analyser, constituent un cas pur, d'une part, parce
Mais
que
oui.
leurs vérités sont incontestables, et d'autre part, parce qu'elles sont historiques.
Évidemment, comment raccrocher le temporel à l'intemporel, d'une certaine manière.
C'était la question.
Ce n'est donc pas un travail d'histoire. Mais alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est un travail dans lequel on essaye de rechercher comment des objets, qu'on appelle des objets idéaux, c'est-à-dire des objets qui ne se rencontrent pas au coin des bois, des objets qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais qui cependant ont leur manière propre de résister, parce qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Comment donc ce genre d'objet, par exemple un signe de 2, ou le trinôme du second degré, ou tout ce qu'on veut, existe historiquement ? Ces objets ne se réduisent pas à des données subjectives fugaces. Ils résistent, ils paraissent à un moment donné sur la scène de l'histoire, ils tiennent un langage qui leur est propre, et ce langage, ils l'imposent. Or aujourd'hui, par exemple, on apprend aux enfants le trinôme du second degré. Ce qu'ils apprennent est vrai. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai en 1789, c'était vrai au point de départ. C'était vrai aussi, peut-être même, avant qu'on ait parlé du trinôme du second degré.
Oui,
parce qu'il y avait sans doute des formes de relations entre les objets ou des formes de relations entre les opérations pratiquées qui conduisaient au trinôme du second degré. Il s'agit de comprendre comment cette vérité indépendante du temps a été porté au jour dans le temps à travers toutes sortes de détours, de difficultés, d'astuces. C'est cela le problème.
Je te remercie d'abord de prendre des exemples qui sont simples et qui appartiennent, jusqu'ici en tout cas c'était le cas, aux mathématiques de l'enseignement secondaire. Ta formation mathématique est très supérieure à ce niveau. Bien sûr, c'est celle du niveau universitaire et même, disons, du niveau du troisième cycle en mathématiques. Mais si nous avions choisi des exemples tirés, je ne sais pas, de Bourbaki ou de l'intégration dans un domaine spécial, nous aurions trouvé quelques auditeurs fort intéressés, mais une majorité qui aurait été découragée. Ceci dit, dans une recherche de ce genre, on est donc conduit à affronter les philosophies traditionnelles de l'histoire. Alors, quelle est ta position sur ce point ?
Bien, on peut dire que les philosophies traditionnelles de l'histoire peuvent se diviser en gros en trois tendances. L'une dans laquelle on imagine un développement linéaire, purement chronologique.
Voilà.
Les idées s'engendreraient ainsi les unes à la suite des autres. L'autre, c'est une forme de développement dans laquelle on supposerait qu'au point de départ, il existe pour ainsi dire la racine du développement sous la forme du concept non encore développé.
Oui.
Ainsi, par exemple, Hegel imaginait le développement de l'histoire comme un développement nécessaire qui serait l'épanouissement de puissance restée, pour ainsi dire, implicite et renfermée au cœur de l'idée.
Toute la plante étant déjà dans la graine.
La plante dans la graine et tout ceci se développant.
C'est ça.
Et enfin, il y a une troisième conception qui est seulement la conception empirique, qui consiste à dire, eh bien, les choses apparaissent comme elles peuvent, d'une manière absolument arbitraire, et puis ce sont les gens, les individus, qui sont tout puissants et qui peuvent créer selon leur propre complexion. Et il n'y a donc des individus et un temps neutre. Bien, ces trois conceptions me semblent erronées, en tout cas ne pas convenir lorsque le problème qui se pose est de comprendre le mode d'existence des objets mathématiques. Il n'y a pas de développement linéaire, parce que le temps est sinueux, parce que l'histoire a des détours, l'histoire a des ruses, il y a des chutes, il y a des ruptures, il y a des recommencements, des oublis, etc. Les exemples ne manquent pas. Le développement n'est pas préfabriqué,
oui.
Parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'on ne peut pas prévoir absolument ce que seront les mathématiques de demain, bien qu'on voit à peu près leur forme, mais nous ne savons pas exactement quel sera leur contenu. Et enfin, il n'y a pas non plus de développement arbitraire. Il s'agit donc de voir comment un développement peut être réglé sans cependant être préfabriqué et sans être absolument linéaire. C'est là la conception de l'histoire à laquelle il me semble qu'il faut réfléchir. Je ne dis pas que j'en ai une, que j'ai une conception de l'histoire qui me permet de répondre à ces questions, mais je crois que c'est dans ce sens qu'il faut chercher, tâcher de comprendre à la fois ces divers caractères.
Alors, tu as écarté en quelque sorte trois conceptions de l'histoire. Il y a un mot qui me vient à la bouche. Est-il correct ? Ce sera à toi de me l'indiquer. C'est le mot dialectique. Qu'en est-il de la dialectique ? Est-ce qu'elle n'offre pas un modèle de développement qui est moins simpliste, plus satisfaisant que les trois modèles que tu viens de critiquer ?
J'ai évité l'emploi du mot dialectique. Je l'ai fait en raison de l'ambiguïté du mot, parce que tantôt on l'entend dans le sens de développement ouvert, dans le sens de mouvement conflictuel.
Oui.
Alors je crois qu'on peut chercher à la loupe ce qui n'est pas dialectique. Toute fausse ne sera dialectique, toute forme de développement sera dialectique. C'est donc un sens trop large pour qu'il puisse nous permettre ici de resserrer la conception de l'histoire qui convient. Tantôt on l'entend dans un sens beaucoup plus strict. Développement par résolution de contradictions, en tant que ces contradictions maturent pendant un certain temps, puis à un moment donné éclatent et exigent leur solution. Alors là, pour ce qui concerne le développement des mathématiques, c'est une conception pour le coup beaucoup trop étroite, parce qu'on serait vraiment obligé de les mettre sur un lit de Procris et de couper tout ce qui avance, n'est-ce pas, pour pouvoir les accorder avec cette conception-là. C'est pourquoi j'ai évité l'usage du mot. Maintenant, si on entend par dialectique, si on dit dialectique, c'est une abréviation. Simplement,
voilà.
Une bonne définition. Une définition est une abréviation.
Oui.
Si on dit dialectique est une abréviation pour indiquer mode de développement spécifique d'un type d'objet dans le temps, alors je suis prêt à employer l'expression dialectique.
Bien sûr.
En insistant sur le mot spécifique.
Eh bien, c'est une prudence que certainement tout scientifique appréciera et qui est caractéristique, bien sûr, de l'esprit du mathématicien. Parce qu'un mathématicien, c'est un homme qui entend employer un mot, toujours dans le même sens, sans qu'il y ait, à un moment donné, un sens large, à un autre moment, un sens étroit, et en les employant dans la même phrase ou dans la même page, sans spécifier au moins qu'il y a changement de sens. Il faut qu'un mot ait un sens bien défini et qu'il convienne aussi parfaitement au problème traité. Parce que même si on prenait le mot dialectique dans le sens ouvert et bien défini, si on le disait, eh bien, on ne commettrait pas d'erreur quant au sens du mot, mais ça ne conviendrait plus au problème, dans le sens étroit également. Mais est-ce qu'on doit en déduire que l'histoire, parce qu'on pourrait penser cela, parce que tu viens de dire, est-ce qu'on doit en déduire que l'histoire se fait sans qu'il y ait de loi. Il y a de temps en temps des livres ou des textes qu'il prétend et qui dit, vous savez, la marche de l'histoire au triomphe du socialisme, au triomphe de l'Église, au triomphe de je ne sais pas quoi, des bonnes causes, de telle ou telle cause. Ça n'existe pas et c'est après qu'on met un ordre. Qu'en penses-tu ? Y a-t-il des lois ou y en a-t-il pas ?
Je pense qu'il y a des lois, mais je dirais que ce sont des lois locales. Des lois dont le mode d'action, comme le mode d'action de toute loi d'ailleurs, dépend des connexions qui vivent à tel moment, qui vivent dans telle région et qui se constituent dans telle région. Et je ne crois pas que l'on puisse tirer de la connaissance de ces lois une sorte de résultante générale et vague qui serait le sens de développement de l'histoire. Je crois même que ce serait là quelque chose d'assez dangereux. Parce qu'alors, on arrivait, pour ainsi dire, à personnifier l'histoire, n'est-ce pas ? En
oui.
faire une personne qui a dans son dos sa besace, et dans sa besace, il y a le sens de l'histoire, ce qui serait un peu curieux.
Exactement. Je remarque d'ailleurs que tu emploies dans tes explications des termes qui sont fréquents en mathématiques, local, connexion, mais ils appartiennent également au langage ordinaire et pratiquement dans le même sens. Ils n'ont pas besoin d'explication. Mais par contre, si ce que tu viens de dire ne me paraît pas demander plus d'explication, ça pourrait être illustré par des exemples.
Eh bien, je considère par exemple le développement de la mécanique. Bien, vous pourrez être tenté d'imaginer une sorte de développement linéaire. La mécanique aurait commencé d'une manière scientifique, c'est pas dans Archimède, puis après ça elle aurait dormi un certain temps, puis elle aurait commencé sa naissance au monde Galilée, et depuis on aurait assisté à une sorte de développement nécessaire, produit par l'engendrement des exigences d'engendrement des concepts. On pourrait donc imaginer une sorte de loi, un point de départ lent, puis après cela des conditions sociales favorables et techniques favorables, des conditions culturelles favorables, et un développement impétueux. Ben, en fait, il n'en est pas ainsi. Parce que oui. si l'on veut comprendre la naissance de la mécanique dans la période alexandrine, la période d'Archimède, Syracuse,
oui, oui.
il faut replacer Archimède dans son temps. Il faut replacer cela dans le profil technique de la société grecque.
Mais
si
oui.
bien que la naissance de la mécanique ne témoigne pas pour l'avenir de la mécanique, mais elle témoigne pour les conditions locales
voilà.
dans lesquelles elle s'est développée, dans lesquelles elle est apparue.
L'esclavage,
tout ce qu'on veut, le niveau technique de la société, les exigences d'études,
oui.
d'analyse de certains, de fonctionnement des machines simples, l'analyse du phénomène des corps flottants, etc. Donc ces problèmes sont nés là.
As-tu un autre exemple ?
Mon Dieu, je pourrais avoir l'exemple de l'arithmétique des Grecs, par exemple,
oui.
n'est-ce pas ? On pourrait ici aussi être tenté d'imaginer une naissance, une maturité, etc. En fait, il n'en est rien. L'arithmétique grecque se referme d'une certaine façon sur elle-même et elle constitue un univers théorique qui répond parfaitement aux possibilités de la production de la science grecque et qui ne peut à aucun moment se reproduire.
Mais
ça se produit dans ces conditions-là, ça ne se reproduira pas. Bien que les Grecs, et on a dit qu'ils ont constitué un système qui est équivalent à Cordes et Rayel, c'est très bien, il est tout
oui.
à fait équivalent, seulement il est équivalent dans un autre domaine.
Mais bien sûr, ce caractère local, on peut le trouver, je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais dans nos actions quotidiennes et dans notre personnalité, je crois que ce que je suis aujourd'hui contient déjà probablement l'avenir de ce que je vais faire demain ou après-demain. Mais dans quelques années, c'est déjà, plus ça va, plus ça s'éloigne et plus c'est incertain. Alors, localement, il y a une tranche d'avenir proche qui est en quelque sorte un présent un peu prolongé, bien entendu. Il était naturel qu'on aille un petit peu au-delà de ce qu'ont fait les Grecs, disons, en arithmétique ou en mécanique. Ce présent était gros d'un peu d'avenir, un avenir lointain, et le corps des réels, par exemple, effectivement, eh bien, je crois que c'est autre chose. Ta thèse est une thèse d'épistémologie, mais je prends toujours bien garde dans cette série d'émissions de ne pas prononcer des mots savants, au moins sans en donner l'explication. Je ne tiens pas non plus à les écarter trop. Il faut que nous élevions la qualité de nos émissions et par conséquent que de temps en temps nous introduisions des éléments de nouveauté, fût-ce par des mots nouveaux, quand ces mots accrochent à leur tour des réalités ou des études importantes. Alors, épistémologie, eh bien, veux-tu nous rappeler ce que signifie ce mot savant ?
Il n'y a qu'à penser à géologie. C'est un mot qui est construit exactement comme géologie.
Oui, mais logie, science, on le sait.
Bon, alors épistémé, ça veut dire science.
Voilà.
Par conséquent, c'est une recherche dans laquelle on prend pour objet les sciences. Mais pour en faire quoi ? Ben, cela dépend. Mais je donnerai ici ma définition de l'épistémologie.
Oui.
C'est-à-dire que je la considère qu'elle est l'étude des conditions de production de la connaissance scientifique, étude qu'on ne peut pas mener en général, dans l'abstrait, et qu'il faut aborder en s'intégrant à une science bien déterminée. Ici, les mathématiques, ou tel aspect des mathématiques.
Et c'est ce que tu as fait. Eh bien, laissons là alors l'aspect historique pour nous centrer sur les mathématiques en tant que science. Et alors là, je reviens à ce que j'avais laissé provisoirement dans l'ombre et qui, je le disais il y a quelques instants, mérite explication. Le titre même de ta thèse, « Les idéalités mathématiques ». Que signifie-t-il ? Que signifie le mot « idéalité » ? Tu n'as donc pas dit idéaux. D'ailleurs, il pourrait y avoir en plus une confusion avec un terme mathématique qui s'appelle idéal ou idéaux. Mais laissons cela de côté, ce sont des mathématiques jusqu'à un certain point supérieur. Mais enfin, tu as pris idéalité, mot qu'on n'emploie pas souvent, tandis qu'on parle ou d'idéal ou de réalité. Alors, que signifie ce mot idéalité ?
Bien, j'ai employé le mot idéalité pour indiquer que les objets mathématiques sont des objets réels et que cependant, ce ne sont pas des objets tangibles.
Voilà.
Ce ne sont pas des objets que l'on peut percevoir, et cependant, ce sont des objets que l'on peut manier d'une certaine façon, puisqu'ils renvoient toujours à des systèmes d'opérations qui les concernent. Prenons par exemple racine de 2. Si j'écris racine de 2 au tableau, le dessin ne signifie rien. C'est un graphisme.
Oui, absolument.
C'est un graphisme. Pour que le graphisme désigne racine de 2, il faut que je me réfère à la possibilité de définir racine de 2. Par conséquent, il faut que j'accomplisse un certain nombre d'opérations qui ne se situent pas dans le monde des objets perçus, qui se situent dans un autre champ, dans un champ de possibilités, dans un champ de compatibilité. Il faut que ces opérations aient certaines propriétés, qu'elles ne soient pas contradictoires entre elles, etc.
Voilà.
Et c'est cela que j'appelle l'idéalité, c'est-à-dire un objet réel qui résiste et qui n'est pas perçu selon le mode dont on perçoit les objets du monde.
Il faut donc, tu viens de le dire, une réalité indépendante de notre pensée, un monde extérieur avec lequel on se bat, car ce qui fait un objet, c'est quelque chose qui résiste au fond. C'est, je ne dirais pas une définition de l'objet, mais quelque chose qui est au voisinage de cette définition. Mais alors, c'est aussi le cas de toutes les sciences, et au sens plein du mot, des sciences physiques, des sciences naturelles, car outre le fait que dans les sciences physiques, on a des objets alors qu'on peut toucher, si je puis dire, comme les planètes, je dirais, on va les toucher bientôt d'ailleurs, mais enfin, dont on imagine qu'on pourrait les toucher facilement, ou en tout cas comme les rochers, etc., dans les sciences physiques, il y a les forces, il y a même la lumière, il y a les phénomènes et les lois également, qui sont donc aussi de tels objets. C'est donc le cas de toutes les sciences.
Oui, oui, les phénomènes et les lois sont toujours des abstraits. Seulement, c'est en mathématiques que cette abstraction atteint son niveau le plus haut. Et c'est pourquoi les mathématiques constituent, pour analyser ce genre d'objets, un cas privilégié. Et plus facile, d'ailleurs, que cette phrase. C'est beaucoup plus difficile en physique. À cause justement de la complication extrême des relations entre l'expérience et le raisonnement.
Mais évidemment, le mathématicien d'ailleurs a toujours l'impression que faire de la physique, c'est mettre beaucoup d'impureté dans l'abstraction. Impureté, oui, d'une certaine manière, mais de quelle importance cette impureté, c'est une autre question. Eh bien, est-ce qu'on peut parler de réalité mathématique qui serait éternelle, d'une sorte de ciel mathématique en quelque sorte, dont les idéalités mathématiques seraient les astres?
Non, parce qu'alors on ne ferait pas de mathématiques, elles seraient toutes écrites. Il suffirait de lire, ce qui n'est pas le cas. On a pu le croire à un moment, c'est pas tout à fait à la naissance, à l'aube de la pensée mathématique, pour d'autres raisons d'ailleurs, pour des raisons philosophiques, idéologiques. Maintenant, c'est devenu impossible, étant donné le caractère de la pratique mathématique.
Sa conception platonicienne, notamment
pythagoricienne, des
mathématiques. Oui, oui. Alors, tu as raison, maintenant, c'est un état d'esprit qui est disparu, peut-être pas complètement, si j'en crois même quelques fréquentations que j'ai chez des mathématiciens qui se trouvent en minorité, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a moins d'un siècle, un mathématicien, et quel grand mathématicien, que j'admire beaucoup et toi aussi certainement, Hermite, par exemple, croyait à cette réalité objective, extérieure à l'homme, des réalités mathématiques, dirais-je, au lieu d'idéalité mathématique, puisque Hermite, en plus, était très croyant, il était très catholique, et il était convaincu, il l'a écrit, que quand son âme irait au ciel, il verrait les fonctions transcendantes, comme nous voyons des animaux ou des plantes, par exemple.
Oui, mais il n'aurait jamais vu de fonction continue sans dérivée.
Ah, c'est possible.
Ah, ben ça, c'est la condamnation.
Elles l'ont scandalisé, en effet.
Oui, et oui.
Elles étaient impossibles.
Impossible, ce qui prouve que son ciel était un ciel souhaité. Donc, un fétichisme, d'une certaine façon.
Cette origine matérielle des mathématiques contribue peut-être, ou est-ce qu'elle ne contribue pas, au fond, c'est une question que je te pose, c'est une question importante où j'aimerais avoir ton avis, je la pose continuellement autour de moi, et puis on me la pose aussi continuellement d'ailleurs, c'est cette explication qui paraît tout à fait être simple et ne pas prêter même à la discussion, très mystérieuse à d'autres, de l'accord des mathématiques et des sciences du monde extérieur, et même des techniques. Quand on construit un pont, quand on fait n'importe quel ouvrage, n'importe quelle fabrication, et quand on veut expliquer les phénomènes en physique et en chimie, on se sert de mathématiques et ça réussit. Alors ça pose un problème qui étonne toujours certains. Eh bien, qu'en est-il ?
Eh bien, si les mathématiques concerne l'étude des opérations les plus générales que l'on peut effectuer sur des objets quelconques, il est à prévoir que plus elles sont abstraites, plus elles trouvent de champs d'application. Et mon Dieu, je crois que c'est un problème qu'il faut élucider, sur lequel il faudrait réfléchir longtemps, mais pour l'instant, c'est la seule réponse que je vois à cette question. Ce qui veut dire que les mathématiques sont nées de la pratique, mais qu'elles la dépassent tellement qu'elles permettent l'analyse de pratiques de plus en plus fines, qui au point de départ n'étaient pas comprises dans leur champ.
C'est d'ailleurs une thèse que je défends, je ne dirais pas souvent, mais que j'ai défendue plusieurs fois dans cette série d'émissions, c'est qu'en s'enfonçant dans l'abstraction, on garde de plus en plus de possibilités de retrouver le monde réel et d'agir sur lui.
La science en marche. C'était une émission de François Le Lyonnais. Aujourd'hui, les mathématiques sont-elles un objet ? Avec Jean Toussaint de Santy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 février 1969.